Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière session de la semaine de Good Morning COVID. Aujourd'hui, la respiration. Nous allons terminer avec le besoin fondamental le plus essentiel, parce que entre manger, dormir, ce qu'on a pu voir au début de la semaine, parler, entre rire, soit, sauf que respirer, combien de temps on peut rester sans respirer? Certains d'entre vous vont peut-être réussir à tenir, je ne sais pas, on peut tenir peut-être 10 minutes, un quart d'heure, bon, bref. Sauf qu'on peut tenir 10 minutes, un quart d'heure sans manger, sans dormir, sans boire, sans parler, respirer. Ça reste notre besoin le plus fondamental. Et donc, on va essayer d'observer aujourd'hui de quelle manière la respiration est quelque chose qui va être comme une sorte de pierre angulaire, une clé de voûte, même une clé de voûte du confinement. Comme la chose sur laquelle je pourrais toujours revenir sans cesse, et ce sera comment on pourra faire de sa respiration son meilleur ami. Donc, respirer. Effectivement, c'est un besoin biologique, oxygène, gaz carbonique, on va le voir. Et puis, on a pu voir que le terme confiné, on a vu ça une dizaine de jours, le fait d'être confiné, enfermé, cloîtré, tout ça, ça a trait aussi à une sorte d'étouffement. Et donc, je manque d'air, comme on dit. Donc, on va voir ensemble de quelle manière la psychologie vient s'immiscer dans ce processus à la base purement biologique, oxygène, gaz carbonique. Et donc, on va s'y dérouler sur l'idée que pourquoi c'est un problème, c'est que dans toutes nos réactions émotionnelles, la respiration est impliquée. On verra pourquoi. Et dans tout ce qui est problématique plutôt d'anxiété. L'anxiété, clairement, la respiration, elle est en réaction. Alors, on pourrait dire qu'elle déraille, alors qu'en fait, elle fait juste son boulot de réagir à ce qu'on lui dit de réagir quand j'ai peur. Le problème, c'est que la respiration, on a peut-être tendance à la façon dont on va la gérer, peut-être amplifier le problème. C'est un peu comme dans les sables mouvants. Plus je me débat et plus j'aggrave le problème. Et la respiration, on va voir ensemble que plus je cherche à bien respirer, et parfois, plus je respire mal. Je vous le dis, je le dirai tous les jours. La clé de tout ce qu'on fera, c'est plus on cherche à faire quelque chose, plus on le veut de manière intensive, plus ça nous échappe. La respiration n'y échappe pas à cette règle. Ce qui fait qu'on prend des anxiolytiques, on va prendre tout un tas de produits, faire tout un tas de choses pour bien respirer, alors que peut-être que la première clé, c'est déjà de comprendre comment ça fonctionne biologiquement, comment ça interagit psychologiquement, et peut-être mettre un peu les mains sur le guidon. Donc, voilà pourquoi on va travailler aujourd'hui sur la respiration, parce que c'est effectivement un risque, soit, mais c'est aussi une formidable occasion de redonner à ce corps une place. Et puis, on va voir que l'instant présent ne va pas être très loin de notre discours aujourd'hui. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que respirer ? Respirer, tout simplement, c'est faire entrer de l'oxygène par mes voies respiratoires. Imaginez un arbre, vous coupez un arbre, vous faites demi-tour, vous mettez le tronc en l'air et les branches en bas avec les feuilles. La respiration, c'est exactement la même chose qu'un arbre. C'est la sève qui coule, donc il y a de l'air qui rentre par les gros troncs. Ça se diffuse dans les plus petits troncs, les plus petites branches, et ça arrive jusqu'à la feuille. On appelle ça une alvéole. Et au niveau de cette feuille-là, on interagit, on fait rentrer de l'oxygène et on récupère le gaz carbonique. Et ça fonctionne comme une sorte d'écluse. L'écluse, quand il y a un trou d'un côté, quand on ouvre les vannes, ça se normalise de l'autre côté. Et puis vice-versa. Quand l'air arrive au contact de l'alvéole, c'est-à-dire imaginez que la sève, ça soit l'air, quand la sève arrive au contact de la feuille, il y a un échange. Il y a plus d'oxygène d'un côté, hop, ça rentre. Et il y a plus de gaz carbonique d'un autre côté, ça sort. Donc nous, dans le sang, qui arrive au niveau des alvéoles, il y a trop de gaz carbonique, donc hop, ça passe dans l'air. Et dans l'air, tant mieux, il y a beaucoup d'oxygène, donc ça passe dans le sang. Donc, ça, c'est la partie anatomique. Donc, notre arbre respiratoire, nos bronches, c'est un arbre. Et puis, donc, cet oxygène va se transporter dans le sang à l'aide du cœur, la grosse pompe, qui va faire actionner tout ça. Et on verra pourquoi tout à l'heure, à quoi ça sert. Donc, on a donc la structure ton appareil respiratoire. Maintenant, il faut vous expliquer comment ça fonctionne. Mais effectivement, il y a de la mécanique là-dedans. La mécanique, dites-vous que, contrairement à ce qu'on fait, peut-être, la respiration, ça se passe tout dans le ventre. Et donc, imaginez, maintenant, il nous faut un moteur pour actionner cette mécanique oxygène-gaz carbonique, ce transfert d'air. Comment ça fonctionne? Eh bien, écoutez, imaginez une colonne ronde, selon comme vous êtes grand ou petit, une colonne qui part donc de votre ventre jusqu'à votre gorge. Allez, on va dire 60 cm, j'en sais rien, mais on va dire ça comme ça. Une grosse colonne ronde. Et donc la respiration, le moteur, il est au pied de la colonne. C'est le disque qui est tout en bas de la colonne. Ce disque-là s'appelle le diaphragme. Et celui-là, en fait, quand il se contracte, à imaginer un disque comme si le pied de ma colonne était un peu creux vers le haut, là, comme si je... Et puis que ce creux, en fait, quand il descend, le diaphragme se contracte, quand il descend, il attire l'oxygène, comme une sorte de seringue à l'envers, hein, vous voyez, une seringue, quand on tire sur le piston, ça attire l'air dans le tube, mais là, c'est de la même façon. L'abdomen, au niveau de mon diaphragme, quand il se contracte, c'est comme s'il tirait vers le bas mon arbre et l'air rentrait à l'intérieur de mes bronches. Alors j'espère que je vais essayer d'être le plus clair possible parce que j'ai toujours l'habitude d'en faire plein de dessins. Mais là, je vais essayer d'imaginer au mieux mon discours. Donc, ça, c'est la première chose. Le premier moteur, le principal moteur, c'est le diaphragme. Quand ça se contracte, hop, toute la colonne descend. Le deuxième moteur, il est un petit peu sur les côtés de la colonne, droite et gauche. C'est un peu comme vos côtes, les flancs. Sur les flancs, il y a des petits muscles qui tirent la cage thoracique un peu légèrement, ça ne vaut pas grand-chose, mais en latéral, pour gagner un petit peu de détendre mon arbre en largeur. Et puis, un dernier moteur, celui-ci un petit peu plus costaud, mais tout de même moins que le diaphragme, l'aspiration thoracique. Les petits muscles qui sont situés au niveau de votre gorge, les pectoraux, là, sous les seins, eux, ils vont tirer la cage thoracique vers le haut. C'est comme si votre colonne, on la tirait vers le haut et vers l'avant. Et donc, vous voyez, cette colonne qui est souple, mon arbre, ben, en fait, on va tirer dessus. Et quand on tire dessus, forcément, les orifices, tout ça, ça se déploie et l'air rentre. Bon, vous allez me dire, OK, c'était sympa. Après un bon petit cours d'anatomie, mon bras s'enlèvement, on pourrait dire que on retrouve à l'école, mais il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Et la raison pour laquelle je vous l'explique, c'est que, allez, je vous dirais quelque chose de cher, mais 2/3 de la respiration se passe par le diaphragme. Donc ça implique une chose. La première chose, c'est que il va falloir qu'on apprenne à respirer par l'abdomen. C'est-à-dire quand la colonne descend, et ben mon ventre se gonfle. Ce qui fait que lorsque j'inspire, lorsque je fais rentrer de l'air, mon ventre se gonfle. Et lorsque je souffle, mon ventre se creuse. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Parce que si ça ne se passe pas comme ça, vous allez voir que ça va expliquer quasiment tous les problèmes qu'on va rencontrer ensuite, que ce soit physique ou psychologique. La respiration se passe au niveau de l'abdomen. D'abord, je souffle, je creuse. J'inspire, je gonfle. Si vous n'y arrivez pas, ne vous affolez pas, justement, c'est le but de cette session. On verra quelques petits exercices pour vous permettre de remettre les pieds sur terre et de remettre les choses à l'endroit. Donc, cette mécanique, je le répète, c'est une colonne. Tout ça se passe en bas. La colonne, le ventre se gonfle, l'abdomen se gonfle et l'air rentre dans les bronches, l'oxygène rentre. Et lorsque je souffle, je creuse et je chasse l'air. Et bien, les deux autres respirations, au repos, on n'en a pas besoin. Donc, si vous respirez d'une manière très haute, thoracique, au repos, déjà, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour améliorer tout ça. Et que, bon, en fait, ces deux respirations qu'on dit accessoires, sur les côtés et la respiration thoracique, elles vont surtout nous servir à l'effort, lorsqu'on marche, lorsqu'on court, et pas au repos. Et vous allez voir que, du coup, le fait de respirer par le haut, plus référentiellement, va amener certains arrêts. Donc, ça... Voilà pour la partie mécanique et donc sur ce qu'on va peut-être pouvoir travailler aujourd'hui. Mais il y a une deuxième chose, d'observer que la respiration, c'est aussi un point de rencontre entre le physique et le psychologique. Et oui, c'est d'ailleurs pour celles et ceux qui connaissent et mon blog et ma pratique, si mon blog s'appelle Éole Psy, le lieu du souffle n'est jamais très loin chez moi, c'est ma base. Ma double formation en biologie et psychologie n'est pas étrangère. Donc, d'un point de vue psychologique, qu'est-ce que ça vient faire une aspiration, vous allez me dire ? Oxygène et gaz carbonique, il n'y a rien de psycho là-dedans. Sauf que, apporter de l'oxygène et évacuer le gaz carbonique, ça relève du domaine de la survie. C'est quelque chose d'instinctif. Et donc, ça va être sous le contrôle d'un grand système qu'on appelle le système sympathique. Sympathique, pas tant sympathique que ça, parce qu'il va gérer les réactions de survie donc, face à la menace. Donc, lorsqu'on est face à un danger, à un animal, face à un orage, et à ce moment-là, ma respiration va s'accélérer naturellement. Ce système sympathique-là va activer tout mon corps sur le mode survie, c'est-à-dire courir le plus vite, me figer d'une manière la plus efficace ou attaquer de manière la plus forte. Et pour ça, il faut de l'oxygène. Du coup, ma respiration s'accélère, l'oxygène rentre plus rapidement dans mon sang, le cœur s'accélère, logique, pour transporter, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mes muscles se contractent, etc. pour utiliser au mieux. Donc, c'est vraiment cette réaction, c'est une réaction globale et générale face à la menace. Et donc, vous observez que nos émotions vont directement impacter notre souffle par ce biais. Parce qu'à partir du moment où une émotion, c'est le reflet d'une déstabilisation, ce qu'on a vu mardi, il y a 10 jours, et bien, à partir du moment où j'ai cette émotion-là, forcément, elle active ma respiration. Donc, à ce point de vue-là, elle nous explique de quelle manière notre souffle, et c'est normal, il ne faut pas le craindre, c'est normal, ma respiration s'accélère, elle se modifie, ça signifie simplement que mon corps a besoin, et je parle bien de besoin, il a juste besoin d'amener plus d'oxygène au corps pour pouvoir faire face, pour peut-être mieux réfléchir, pour peut-être mieux faire face. Sauf que bien souvent, cette respiration, et ça finit par coincer parce que, parce qu'on en a peur, on se dit « mais je respire mal, mais que se passe-t-il » Et vous voyez bien qu'il y a un petit cercle vicieux qui commence à se créer. Alors qu'à la base, ma respiration, si je respire plus vite, c'est que j'en ai besoin. Donc, la respiration n'est pas forcément un problème, c'est juste une forme de thermomètre. Vous n'allez pas vous affoler quand vous voyez le mercure qui monte. Vous allez juste vous dire « ok, ça veut dire qu'il fait chaud ». Et ensuite, vous n'allez pas chercher à faire descendre à tout prix le mercure, vous allez peut-être baisser le chauffage. Ben, la respiration, c'est un peu comme un thermomètre. C'est ni plus ni moins le reflet de mes besoins d'activité biologique, mais aussi mes besoins psychologiques par rapport à mes émotions. Donc, on vient donc, j'espère l'avoir fait de manière la plus claire possible. La respiration, c'est donc un besoin biologique, inséré dans tout un tas de problématiques psychologiques, parce qu'on parle d'étouffer, etc. Et c'est donc une colonne avec un bon moteur en bas qui monte et qui descend comme un arbre, qui fait sortir et rentrer l'air. Et d'un point de vue psychologique, ça va être directement ancré sur mes émotions. Bon, c'est bien, hein, on est toujours dans la leçon de biologie, mais pourquoi ça coince? Et c'est là que on va commencer à comprendre ce qui fait que peut-être que notre respiration n'est pas à l'aise dedans. Ben, ce qui coince, c'est que quand on a une respiration qui est plutôt haute, parce que peut-être que déjà en schéma corporel, on nous dit respirer à plein poumon, donc on a une respiration thoracique, on dit ouais, bombe de torse. On commence à solliciter un peu de nos muscles, notre respiration du haut. Sauf que la respiration du haut, bon, elle nous permet de vivre, hein, il n'y a pas de problème, elle fait rentrer d'oxygène et de gaz carbonique. Sauf que la respiration thoracique, elle tire la cage thoracique vers le haut. Donc il y a les muscles qui font rentrer de l'air, mais il n'y a pas de muscles qui font vider. Ces petits muscles-là sont très peu puissants, ce qui fait que je fais rentrer de l'air, il n'y a pas de problème. Ouais, j'en fais rentrer. Le problème, c'est que ça, on va avoir du mal à vider. Et donc, si je fais rentrer 1 litre d'air et puis que j'ai du mal à en vider et puis que j'en vide que 70%, j'en reste 30. Quand je réinspire, j'ai encore ces 30 dedans, je remets 100% et hop, j'ai tendance à monter. Donc, j'inspire, je ne vide pas tout. J'inspire, je ne vide pas tout. J'inspire, je ne vide pas tout. Et là, je me retrouve, je rallume, je radoute, je rajoute des volumes. Et là, j'arrive à un blocage, comme si j'arrivais à un plafond. Et là, ça commence à coincer parce que je me dis, oh là là, mais j'ai... Il n'y a plus d'air, je manque d'air. Vous voyez bien que les problèmes à la fois biologiquement, c'est que du coup, j'ai un problème, j'ai trop d'air, il faut que je le vide. Sauf que vu que je respire par la cage thoracique, c'est plus compliqué. J'y arrive, hein, mais c'est plus compliqué. Et d'un point de vue psychologique, un peu flippant, non? Parce que je me dis, bon, il y a une partie de mon cerveau qui me dit, waouh, Yannick, tu manques d'air. Et il y a une autre, là, celui qui est en dessous, dans le corps, qui est dans les poumons, qui dit, mais t'es gentil, mais là, moi, j'en ai trop. Mais là, vous observez qu'à ce moment-là, notre respiration commence un petit peu à devenir angoissante parce que, ben, en fait, je manque d'air, j'étouffe. Donc, en fait, non. Ça, c'est ce que je me dis parce que j'ai une représentation de ma respiration qui me dit que, il faut que je prenne plus d'air, qu'en fait, j'en ai trop. Pourquoi? Parce que j'ai respiré trop avec la cage thoracique et que ma cage thoracique ne m'a pas permis de bien vider. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié une petite précision. Mon diaphragme, lui, il fait rentrer l'air, mais c'est les abdominaux qui se contractent et qui font souffler, qui font sortir. Donc, dans mon ventre, j'ai tout. J'ai un gros muscle inspirateur, le diaphragme, j'ai un gros muscle expirateur. Même si vous avez de la brioche comme moi, ne vous inquiétez pas, les abdominaux, ça suffit pour vider un sac d'air. Donc, pourquoi ça coince? C'est que ben, quand notre respiration est trop haute, ben déjà, d'un point de vue volume, on fait rentrer beaucoup d'air, on a tendance à en vider moins. Et forcément, à un moment donné, ben, ça devient angoissant. Je me mets à porter plus d'attention à mon angoisse. Et comme l'alimentation, comme le sommeil en début de semaine, plus je me mets à réfléchir à mon souffle, et là, c'est le drame. Ben, c'est le drame parce que quand je commence à mettre les mains dans un programme qui est a priori automatique, géré par le type du dessous, si je vous rappelle, le type du dessus dans le cerveau, c'est celui qui parle, qui réfléchit, qui a la conscience. Celui qui est en dessous, la grande barbe blanche, c'est celui qui gère tous les instincts. Donc, respirer. Pardon. Donc, ben à ce moment-là, je commence à avoir peur de ma peur. Je dis, ouh, que se passe-t-il? Et là, ça commence à s'embrayer, puisqu'il se trouve que la respiration émotionnelle, enfin, dire l'anxiété, c'est beaucoup sur le haut de la poitrine. En médecine chinoise, on parle beaucoup de le soleil, le feu, c'est la poitrine, et le ventre, c'est la lune, c'est la terre, c'est le calme. Et donc, ben, plus je suis hyperactif, plus je suis activé émotionnellement, la joie, c'est pareil. Vous voyez, quand on est stupéfait, vous imaginez quelqu'un qui gagne l'auto, il est la poitrine tout haute comme ça, avec la bouche ouverte, les yeux écarquillés. Eh ben, l'anxiété, elle va amplifier ce phénomène qui fait qu'on va respirer encore plus par la cage thoracique. Si vous rajoutez l'idée que je suis confiné, que ma tête me dit que je manque d'air, j'étouffe, eh ben, alors là, c'est reparti. Donc, tout concourt finalement à faire de mon corps une sorte de montgolfière avec une toute petite caisse au niveau du ventre et un gros ballon là-haut. Alors, rassurez-vous, bah oui, vous n'allez pas mourir, contrairement à ce que votre tête vous raconte. Par contre, ça va devenir très inconfortable. Et surtout, la respiration va commencer à. Je m'en préoccupais pas. Et là, d'un coup, hop, je me mets à me recentrer sur mon souffle. Et des fois, dans le confinement, pourquoi je vous amène là-dessus? C'est quand on se retrouve avec une anxiété qui est normale, en vertu du contexte, et bien là, je me mets à me prendre la tête et à respirer d'une manière ou d'une autre. Et en confinement, bah, du coup, ça peut me poser problème. Donc, bah, ça coince donc, parce que notre respiration, elle est trop haute. Et alors, je ne vous raconte pas, quand à l'époque, quand j'étais kiné dans les maladies respiratoires avant, je ne vous raconte pas quand un médecin vient dire à son patient, mais vous ne savez pas respirer. Imaginez le côté angoissant. C'est un truc absolument vital et on vous dit, bah, vous ne savez pas faire. Non. Tout le monde sait respirer, mais peut-être qu'on pourrait peut-être mieux respirer. Donc, en quoi ça va poser problème dans la vie quotidienne? Ben, l'effort, tout simplement, quand on se met à marcher ou quand on se met à accélérer cadence, si je respire déjà haut, c'est un peu comme votre compte tour de voiture. Si votre ralenti, il est déjà à 4000 tours, dès que vous accélérez, vous êtes dans le rouge. Ben, si ma respiration, elle commence par le ventre et ensuite elle monte, ben, si je commence déjà haut, dès que je monte les escaliers, au bout de 4 marches, je suis essoufflé. Ben, en fait, vous allez voir que non, ce n'est pas essoufflé. Et là, c'est une deuxième chose assez fondamentale. Et c'est là où ma tête me raconte un peu de bêtises. Non, en fait, je ne suis pas essoufflé, je suis bloqué. C'est-à-dire que si je marche, si je mets 4 marches, si je monte 4 marches et que j'ai la respiration haute et que je tape mon plafond parce que je n'ai pas vidé, ben, en fait, je suis bloqué. J'ai un blocage, j'ai trop d'air. Alors qu'en fait, ça ne veut pas dire que je suis essoufflé, que je manque d'oxygène, que je manque d'exercice, que j'ai trop de poids. Ah, oui, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est surtout peut-être que ma respiration, je ne l'ai pas accompagnée comme il fallait. C'est comme votre voiture. Vous passez de la première à la cinquième, vous allez comprendre que bah, ça ne fonctionne pas. Et vous n'allez pas dire que votre moteur il pose problème, vous allez juste dire bah, j'ai sauté trois vitesses ou quatre. Le premier problème, donc, il est là quand on marche. Et quand on porte de la même manière, ça pose problème. Imaginez, vous portez un carton. Si vos muscles thoraciques sont occupés à respirer, la cage thoracique, là, vos pectoraux, les muscles du cou sont occupés à respirer, ben, quand vous portez un carton, vous êtes en apnée. Et là, alors là, allez porter quelque chose de lourd, alors que comme moi, je ne suis pas très musclé, déjà que ce n'est déjà pas simple, mais en apnée, bon, ben forcément, au bout de 2 minutes, on ne tient pas longtemps. Et donc, ma tête me dit, bah, tu vois, Yannick, tu n'es pas costaud, tu sais pas, tu manques d'air, etc. Ben, en fait, non, c'est juste que ma respiration est trop haute, il faut que je la redescende. Donc, il y a l'effort. Pour celles et ceux qui sont essoufflés, essayez d'observer si c'est vraiment un manque d'exercice, c'est faisable, c'est possible, ou si ce ne sera pas une respiration qui est un peu bancale. Et d'un point de vue psychologique, si on revient maintenant, ben, ben bien que là, tout ce qui est du domaine de l'anxiété, on va le retrouver là, avec le besoin de souffler, le manque d'air, la peur de ses respirations, ce qu'on appelle l'hypochondrie. Plus je deviens anxieux à ma respiration, plus elle déraille, et plus elle déraille, plus je suis anxieux, et alors là, ça conduit à ce qu'on appelle les attaques de panique. La peur de la peur. Je me mets à avoir peur de quelque chose qui est un peu fondamental. C'est un peu comme si vous promenez avec un ami dans les bois, il y en a un qui a peur, donc vous avez peur, lui il a peur de votre peur, et tous les deux, plus vous courez, plus l'autre court, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle une attaque de panique, c'est ça, hein, c'est qu'au final, ma respiration elle est déjà bancale, je ne suis pas ancré, et puis j'ai peur, et puis ça monte, et ainsi de suite. Et puis, bah, ça coince au niveau psycho, parce que si je ne suis pas dans ma base abdominale, comme on va le voir à la fin de cette session, mais on pourrait dire que c'est une forme d'anxiété de fond, oui, soit j'ai une activation émotionnelle, mais du coup, mon souffle, il est branché là-dessus. Donc, du coup, je me mets à avoir une respiration thoracique qui n'est pas très agréable, parce qu'elle est fatigante, parce que, bon, imaginez, entre le mou de mon ventre, qui se déplie très très bien, parce qu'il a déjà bien des plis déjà préformés, et les os de ma carcasse, qui est déjà bien raide avec l'âge, bah, imaginez bien qu'il n'y a pas la même... On ne bouge pas les choses de la même manière. Donc, la cage thoracique, elle est fatigante. Et c'est ce qui me donne des contractures au niveau du cou, qui nous donne le poids sur la poitrine. Ben là, du coup, ben ça, c'est angoissant aussi. Et enfin, bref, quand on est en dépression, ben on manque de souffle, le souffle de la vie. Donc, on va voir ensemble que eh ben, la respiration, c'est la clé. Parce qu'à partir du moment où on a trouvé que la respiration était le problème, ça reste la clé. Parce que si on trouve la clé, on ouvre les portes. Autant on n'a pas de pouvoir sur nos émotions, on n'a pas de pouvoir sur le danger, par contre on a un pouvoir sur notre souffle. Et oui, on a un pouvoir, on a le pouvoir de ne pas faire ce qu'on en veut forcément, mais on a une marge de manœuvre, ce qu'on va voir ensemble. Comment ramener sa respiration au mieux? Comment? Ouais, ben, en fait, vous allez voir que c'est un peu du bon sens, comme tout ce que je vous amène dans ces sessions de mouvement de Covid. Nous, on va parler de bon sens, ce qui ne veut pas dire que c'est simple, ce qui veut dire qu'il va falloir apprendre et reprendre une habitude. La première chose, c'est de refaire ami-ami avec sa respiration. Et celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de porter attention sur leur corps, ça ne va pas être évident au début. Et donc, l'erreur, ce serait de toujours vouloir respirer bien, de toujours être bon, de toujours être calme. Ben non, je vous expliquais que le souffle était comme un thermomètre, c'est le reflet de mes émotions, de la température. Quand il fait chaud, j'ai oublié de vous le dire, quand il fait chaud, on a tendance à chercher de l'air, c'est encore plus haut. Et déjà, la première chose, c'est de refaire ami. Et quand on est ami avec quelqu'un, on accepte aussi qu'il ait des écarts, on accepte qu'il soit grognon. Quand on a un bon ami, on accepte tout et on prend ce qui vient. Et donc, refaire ami-ami avec son souffle, c'est aussi être à l'aise avec son malaise et d'accepter que des moments, notre souffle n'est pas forcément optimal. Première chose. Deuxième chose, bah, évidemment, respiration abdominale. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est 2-3 fois par jour, essayer de vous asseoir et juste de vous entraîner à souffler, creuser le ventre. Oubliez gonfler le ventre, vous verrez, ça viendra tout seul. Soufflez, creusez. Soufflez, creusez, soufflez, creusez. Et alors, au début, ça va être compliqué parce que votre tête va vous vendre un vieux programme, mais non, ça va bien, ça va. Non, fermez les yeux, mettez la main sur le ventre, soufflez, creusez. Alors là, facile à dire, hein. Ça m'a pris 15 secondes pour vous le dire, mais pour vous, effectivement, pour celles et ceux qui ont du mal, ça prendra peut-être une dizaine de jours, mettez la main, soufflez, creusez. Et ça, c'est une base. Troisième chose, il y a beaucoup de choses sur le souffle, hein, parce que c'est quelque part, c'est un peu ma passion là-dessus. Quand on est angoissé, la tendance qu'on a, c'est à respirer à plein poumon. Sauf que je ne vous avais pas expliqué, parce que je ne peux pas tout faire, Si je respire trop vite, ben j'ai trop d'oxygène dans le sang et pas assez de gaz carbonique. Et là, je me mets à la tête qui tourne, je me retrouve un peu vaseux, j'ai les yeux, j'ai la vue qui se brouille. On appelle ça de l'hyperventilation. Dans les moments où on est un peu anxieux, la chose à faire, c'est de ralentir et de respirer le plus petitement possible. Donc, c'est ce que j'appelle la respiration, les 4-4. Alors, certains ont d'autres rythmiques, 6-8-4. Bref, je vous explique. J'inspire, je bloque mon souffle 4 secondes. Je souffle, je le bloque 4 secondes. Et en faisant ça, ben en fait, je vais faire des apnées. Alors, ça peut paraître vraiment paradoxal, complètement con. Hein, c'est mon cerveau qui me dit, mais Yannick, tu manques d'air, qu'est-ce que tu fous, bordel? Ben, non, tout simplement, si j'ai respiré trop vite et j'ai trop d'oxygène, si je fais des apnées, ça va normaliser tout ça. Et le fait de faire des apnées, ça va me permettre de vider au mieux, vous le verrez. Donc, je résume, on fait un lien avec sa respiration. On respire par le ventre. On fait des apnées quand on est un peu stressé parce que ça va me permettre de me recentrer. Et on termine donc, eh bien oui, se recentrer. On a parlé d'instant présent, on a parlé de s'installer là, ici et maintenant. Eh bien la respiration, pourquoi c'est la clé? C'est que quand vous êtes centré sur votre souffle, juste sur sentir l'air qui rentre et l'air qui ressort sous vos narines, sans chercher à faire quoi que ce soit, premièrement, quand vous respirez, ben en fait, vous ne pensez pas. Ben, vous ne pensez pas à autre chose déjà. Moi, si je regarde devant, je ne peux pas regarder derrière. Donc, quand vous vous centrez sur votre souffle, ce sera un très bon entraînement pour un peu moins écouter M. Malmorlou qui vous dise que ça va mal se passer. Et quand on est centré sur son souffle, on retrouve un sentiment, on appelle un sentiment d'efficacité personnelle. On se dit, ah, il y a quand même un truc quand même que je peux quand même mettre la main dessus, c'est mon souffle. Et donc, le fait de se recentrer là-dessus, ben, on s'installe dans le moment présent, on se retrouve un peu de lucidité. Et peut-être que ça ne peut pas ramener du calme, parce que bah, si la situation n'est pas zen, bah, je suis désolé, je ne peux pas être ce psychologue qui vous permet d'être zen quand vous apprenez une mauvaise nouvelle. Non. Je ne peux pas vous permettre d'être zen, d'avoir une respiration calme et tranquille quand il fait 40 degrés et vous étouffez. Par contre, je pourrais vous apprendre à mieux la vivre et peut-être à ramener votre souffle d'une manière, dans une fenêtre qui soit un peu plus efficiente. Donc, voilà donc pour cette grande session d'aujourd'hui où. Nous avons parlé de souffle et quelque part, on a un petit peu parlé de ses besoins fondamentaux durant toute cette semaine. Et donc, cette semaine, essayez de reprendre un petit peu ce qu'on a pu voir, puis c'est quelque chose que vous allez pouvoir pratiquer pendant ce week-end. Donc, la semaine prochaine, je vous annonce un petit peu le programme, on va parler de soi. Alors, pas du soi de manière égocentrique, non, on va parler de la confiance en soi, de l'estime, de la compassion, on va parler un petit peu de la culpabilité, on va parler de soi. Eh bien, écoutez, j'espère que cette session vous aura plu, j'espère que cette semaine vous aura plu. Si vous avez des petits commentaires ou vous les envoyez par mail, vous pouvez aussi laisser des petits commentaires sur ma page Facebook si ça vous a plu. Ça me fera toujours plaisir. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée